Alors, commença une série d'excursions dans tous les endroits louches où s'amuse le peuple. Et du roi découvrit dans sa maîtresse un goût passionné pour ce vagabondage d'étudiants en goguette. Elle arrivait au rendez-vous habituel, vêtue d'une robe de toile, la tête couverte d'un bonnet de soubrette de vaudeville. Et, malgré la simplicité élégante et cherchée de la toilette, elle gardait ses bagues, ses bracelets et ses boucles d'oreilles en brillant. En donnant cette raison, quand il la suppliait de les ôter, bah, on croira que ce sont des cailloux du Rhin. Elle se jugeait admirablement déguisée, et bien qu'elle fût en réalité cachée à la façon des autruches, elle allait dans les tavernes les plus mal famées. Elle avait voulu que Duroy s'habillât en ouvrier, mais il résista et garda sa tenue correcte de boulevardier, sans vouloir même changer son haut chapeau contre un chapeau de feutre mou. Elle s'était consolée de son obstination par ce raisonnement. On pense que je suis une femme de chambre en bonne fortune avec un jeune homme du monde. Et elle trouvait délicieuse cette comédie. Ils entraient ainsi dans les caboulots populaires et allaient s'asseoir au fond du bouge enfumé, sur des chaises boiteuses, devant une vieille table de bois. Un nuage de fumée âcre où restait une odeur de poisson frit du dîner emplissait la salle. Des hommes en blouse gueulaient en buvant des petits verres, et le garçon étonné dévisageait ce couple étrange en posant devant lui deux cerises à l'eau-de-vie. Elle, tremblante, apeurée et ravie, se mettait à boire le jus rouge des fruits à petits coups, en regardant autour d'elle d'un œil inquiet et allumé. Chaque cerise avalée lui donnait la sensation d'une faute commise. Chaque goutte du liquide brûlant et poivré descendant en sa gorge, lui procurait un plaisir âcre, la joie d'une jouissance scélérate et défendue. Puis elle disait à mi-voix « Allons-nous-en » et il partait. Elle filait vivement, la tête basse, d'un pas menu, d'un pas d'actrice qui quitte la scène, entre les buveurs accoudés aux tables qui la regardaient passer d'un air soupçonneux et mécontent. Et quand elle avait franchi la porte, elle poussait un grand soupir, comme si elle venait d'échapper à quelque danger terrible. Quelquefois, elle demandait à Duroy en frissonnant « Si on m'injuriait dans ces endroits-là, qu'est-ce que tu ferais ?» Il répondait d'un ton crâne « Je te défendrais, parbleu !» Et elle lui serrait le bras avec bonheur, avec le désir confus peut-être d'être injuriée et défendue, de voir des hommes se battre pour elle, même ces hommes-là, avec son bien-aimé. Mais ces excursions, se renouvelant deux ou trois fois par semaine, commençaient à fatiguer Duroy, qui avait grand mal d'ailleurs, depuis quelque temps, à se procurer le 2000 louis qu'il lui fallait pour payer la voiture et les consommations. Il vivait maintenant avec une peine infinie, avec plus de peine qu'au jour où il était employé du Nord. Car, ayant dépensé largement, sans compter pendant ses premiers mois de journalisme, avec l'espoir constant de gagner de grosses sommes le lendemain, il avait épuisé toutes ses ressources et tous les moyens de se procurer de l'argent. Un procédé fort simple, celui d'emprunter à la caisse, s'était trouvé bien vite usé, et il devait déjà au journal 4 mois de son traitement, plus 600 francs sur ses lignes. Il devait en outre 100 francs à Forestier, 300 francs à Jacques Rival, qui avait la bourse large, et il était rongé par une multitude de petites dettes inavouables de 20 francs ou de 100 sous. Saint-Potin, consulté sur les méthodes à employer pour trouver encore 100 francs, n'avait découvert aucun expédient, bien qu'il fût un homme d'invention. Et Duroy s'exaspérait de cette misère plus sensible maintenant qu'autrefois, parce qu'il avait plus de besoins. Une colère sourde contre tout le monde couvait en lui, et une irritation incessante qui se manifestait à tout propos, à tout moment, pour les causes les plus futiles. Il se demandait parfois comment il avait fait pour dépenser une moyenne de 1 000 livres par mois, sans aucun excès ni aucune fantaisie. Et il constatait qu'en additionnant un déjeuner de 8 francs avec un dîner de 12, pris dans un grand café quelconque du boulevard, il arrivait tout de suite à 1 louis, qui, joint à une dizaine de francs d'argent de poche, de cet argent qui coule sans qu'on sache comment, formait un total de 30 francs. Or, 30 francs par jour donnent 900 francs à la fin du mois. et il ne comptait pas là-dedans tous les frais d'habillement, de chaussures, de linge, de blanchissage, etc. Donc, le 14 décembre, il se trouva sans un sou dans sa poche et sans un moyen dans l'esprit pour obtenir quelques monnaies. Il fit comme il avait fait souvent jadis. Il ne déjeuna point et il passa l'après-midi au journal à travailler, rageant et préoccupé. Vers 4 heures, il reçut un petit bleu de sa maîtresse qui lui disait « Veux-tu que nous dînions ensemble ? Nous ferons ensuite une escapade. » Il répondit aussitôt « Impossible dîner. » Puis il réfléchit qu'il serait bien bête de se priver des moments agréables qu'elle pourrait lui donner, et il ajouta « Mais je t'attendrai à 9 heures dans notre logis. » Et ayant envoyé un des garçons porter ce mot, afin d'économiser le prix du télégramme, il réfléchit à la façon dont il s'y prendrait pour se procurer le repas du soir. À 7 heures, il n'avait encore rien inventé, et une faim terrible lui creusait le ventre. Alors il eut recours à un stratagème de désespéré. Il laissa partir tous ses confrères, l'un après l'autre, et quand il fut seul, il sonna vivement. L'huissier du patron, resté pour garder les bureaux, se présenta. Duroy, debout, nerveux, fouillait ses poches, et d'une voix brusque, « Dites donc, Foucard, j'ai oublié mon portefeuille chez moi et il faut que j'aille dîner au Luxembourg. Prêtez-moi 50 sous pour payer ma voiture. » L'homme tira 3 francs de son gilet en demandant « Monsieur Duroy ne veut pas davantage ?»« Non, non, cela me suffit. Merci bien. » Et ayant saisi les pièces blanches, Duroy descendit en courant l'escalier, puis alla dîner dans une gargote où il échouait au jour de misère. À 9 heures, il attendait sa maîtresse, les pieds au feu dans le petit salon. Elle arriva, très animée, très gaie, fouettée par l'air froid de la rue. « Si tu veux, » dit-elle, « nous ferons d'abord un tour, puis nous rentrerons ici à 11 heures. Le temps est admirable pour se promener. » Il répondit d'un ton grognon, « Pourquoi sortir ? On est très bien ici. » Elle reprit, sans ôter son chapeau, « Si tu savais, il fait un clair de lune merveilleux. C'est un vrai bonheur de se promener ce soir. » « C'est possible, mais moi je ne tiens pas à me promener. » Il avait dit cela d'un air furieux. Elle en fut saisie, blessée, et demanda « Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi prends-tu ces manières-là ? J'ai le désir de faire un tour, je ne vois pas en quoi cela peut te fâcher. » Il se souleva, exaspéré. « Cela ne me fâche pas. Cela m'embête, voilà. » Elle était de celles que la résistance irrite et que l'impolitesse exaspère. Elle prononça, avec dédain, avec une colère froide, « Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle ainsi. Je m'en irai seule alors, adieu. » Il comprit que c'était grave, et s'élançant vivement vers elle, il lui prit les mains, les baisa en balbutiant « Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Je suis très nerveux ce soir, très irritable. C'est que... j'ai des contrariétés, des ennuis, tu sais, des affaires de métier. » Elle répondit, un peu adoucie mais non calmée, « Cela ne me regarde pas, moi, et je ne veux point supporter le contre-coup de votre mauvaise humeur. » Il la prit dans ses bras, l'attira vers le canapé, « Écoute, ma mignonne, je ne voulais point te blesser, je n'ai point songé à ce que je disais. » Il l'avait forcée à s'asseoir, et s'agenouillant devant elle, « M'as-tu pardonné ? Dis-moi que tu m'as pardonné. » Elle murmura d'une voix froide « Soit, mais ne recommence pas. » Et, s'étant relevée, elle ajouta « Maintenant, allons faire un tour. » Il était demeuré à genoux. Entourant les hanches de ses 2 bras, il balbutia « Je t'en prie, restons ici, je t'en supplie. Accorde-moi cela, j'aimerais tant à te garder ce soir pour moi tout seul, là, près du feu. Dis oui. « Je t'en supplie, dis oui. » Elle répliqua nettement, durement, « Non ! Je tiens à sortir, et je ne céderai pas à tes caprices. » Il insista, « Je t'en supplie. J'ai une raison très sérieuse. » Elle dit de nouveau, « Non ! Et si tu ne veux pas sortir avec moi, je m'en vais, adieu. » Elle s'était dégagée d'une secousse et gagnait la porte. Il courut vers elle, l'enveloppa dans ses bras. « Écoute, Clo, ma petite Clo, écoute, accorde-moi cela. » Elle faisait non de la tête, sans répondre. évitant ses baisers et cherchant à sortir de son étreinte pour s'en aller. Il bégayait, « Clo, ma petite Clo, j'ai une raison !» Elle s'arrêta en le regardant en face. « Tu mens. Laquelle ?» Il rougit, ne sachant que dire, et elle reprit, indignée, « Tu vois bien que tu mens. Sale bête !» Et avec un geste rageur, les larmes aux yeux, elle lui échappa. Il la prit encore une fois par les épaules et, désolé, prêt à tout avouer pour éviter cette rupture, il déclara avec un accent désespéré « Il y a que je n'ai pas le sou. Voilà. » Elle s'arrêta net. Et le regardant au fond des yeux pour y lire la vérité, « Tu dis ?» Il avait rougi jusqu'aux cheveux. Je dis que je n'ai pas le sou. Comprends-tu? Mais pas 20 sous, pas 10 sous, pas de quoi payer un verre de cassis dans le café où nous entrerons. Tu me forces à confesser des choses honteuses. Il ne m'était pourtant pas possible de sortir avec toi, et quand nous aurions été attablés, devant 2 consommations, de te raconter tranquillement que je ne pouvais pas les payer. Elle le regardait toujours en face. Alors, c'est bien vrai, ça ? En une seconde, il retourna toutes ses poches, celle du pantalon, celle du gilet, celle de la jaquette, et il murmura « Tiens, es-tu contente maintenant ?» Brusquement, ouvrant ses 2 bras avec un élan passionné, elle lui sauta au cou, en bégayant « Oh, mon pauvre chéri !» Mon pauvre chéri, si j'avais su, comment cela t'est-il arrivé ? Elle le fit asseoir et s'assit elle-même sur ses genoux, puis le tenant par le cou, le baisant à tout instant, baisant sa moustache, sa bouche, ses yeux, elle le força à raconter d'où lui venait cette infortune. Il inventa une histoire attendrissante. Il avait été obligé de venir en aide à son père, qui se trouvait dans l'embarras. Il lui avait donné non seulement toutes ses économies, mais il s'était endetté gravement. Il ajouta « J'en ai pour 6 mois au moins à crever de faim, car j'ai épuisé toutes mes ressources. Tant pis. Il y a des moments de crise dans la vie. L'argent, après tout, ne vaut pas qu'on s'en préoccupe. » Elle lui souffla dans l'oreille « Je t'en prêterai. Veux-tu ? » Il répondit avec dignité « Tu es bien gentille, ma mignonne, mais ne parlons plus de ça. Je te prie, tu me blesserais. » Elle se tut, puis, le serrant dans ses bras, elle murmura « Tu ne sauras jamais comme je t'aime. » Ce fut une de leurs meilleures soirées d'amour. Comme elle allait partir, elle reprit en souriant « Hein ?» Quand on est dans ta situation, comme c'est amusant de retrouver de l'argent oublié dans une poche, une pièce qui avait glissé dans la doublure. Il répondit avec conviction « Ah, ça oui, par exemple. » Elle voulut rentrer à pied, sous prétexte que la lune était admirable, et elle s'extasiait en la regardant. C'était une nuit froide et sereine du commencement de l'hiver. Les passants et les chevaux allaient vite, piqué par une claire gelée. Les talons sonnaient sur les trottoirs. En le quittant, elle demanda « Veux-tu nous revoir après-demain ?»« Mais oui, certainement. À la même heure ?»« À la même heure. » »« Adieu, mon chéri. » Et ils s'embrassèrent tendrement. Puis il revint à grands pas, se demandant ce qu'il inventerait le lendemain afin de se tirer d'affaire. Mais comme il ouvrait la porte de sa chambre, il fouilla dans la poche de son gilet pour y trouver des allumettes, et il demeura stupéfait de rencontrer une pièce de monnaie qui roulait sous son doigt. Dès qu'il eut de la lumière, il saisit cette pièce pour l'examiner. C'était un louis de 20 francs. Il se pensa devenu fou. Il tourna, le retourna, cherchant par quel miracle cet argent se trouvait là. Il n'avait pourtant pas pu tomber du ciel dans sa poche. Puis, tout à coup, il devina, et une colère indignée le saisit. Sa maîtresse avait parlé en effet de monnaie glissée dans la doublure et qu'on retrouvait aux heures de pauvreté. C'était elle qui lui avait fait cette aumône. Quelle honte! Il jura « Ah bien, je vais la recevoir après-demain, et elle en passera un joli quart d'heure. » Et il se mit au lit, le cœur agité de fureur et d'humiliation.